Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue dans le journal sur Radio Kapi, la radio de la paix, pour une information sûre et vérifiée. Au micro, Gisèle Cage. Tout de suite, les titres. Sanctions américaines. Human Rights Watch pousse Kigali dans ses retranchements. L'organisation dénonce l'impunité persistante de violence dans l'est du Congo et presse Washington et ses alliés de durcir leur réponse envers Kigali. Kamituga frappé par un énième éboulement, 2 morts à Kalingi. La société civile accuse l'État de laxisme face au manque de sécurité dans les mines artisanales et réclame des mesures immédiates. Kasaï Central, 39 morts en 2 mois. Les routes virent au cauchemar. Invité du jour, Andrik Ndalandimwe, directeur provincial de la CNPR, décrypte les 63 accidents enregistrés depuis janvier et alerte sur l'urgence d'agir. Les sanctions annoncées le 2 mars par Washington contre l'armée rwandaise et 4 de ses hauts commandants accusés de soutenir le M23, groupe armé impliqué dans des graves exactions en RDC, continuent de provoquer une avalanche de réactions. La dernière est signée Human Rights Watch. Dans un communiqué publié ce mercredi, Nicole Widershem, directrice adjointe du bureau de Washington, salue une décision qui, selon elle, montre que le gouvernement des États-Unis est prêt à mobiliser tous les instruments à sa disposition pour faire respecter les accords de Washington. Elle va plus loin et appelle les États-Unis ainsi que d'autres gouvernements à durcir le ton, estimant qu'il est temps d'exiger des comptes pour les crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international dans l'est du Congo. Les explications d'Alain Irung.
Dans ce communiqué, Human Rights Watch propose que d'autres gouvernements concernés, notamment au sein de l'Union européenne, dans la région et au Royaume-Uni, devraient suivre l'exemple des États-Unis en imposant des sanctions ciblées à d'autres commandants du M23, ainsi qu'à des personnalités et responsables militaires rwandais ou à des entités facilitant les exactions du M23. Les États-Unis et les acteurs régionaux devraient veiller à ce que des mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour garantir le respect des dispositions de l'accord de paix. Les mesures devraient également s'étendre à tout responsable congolais ou groupe allié dont les actions font courir un risque aux civils. Une pression multilatérale soutenue sur toutes les parties au conflit est nécessaire pour garantir la protection adéquate des civils et leur accès à l'aide humanitaire, a déclaré Human Rights Watch. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples devrait également intensifier l'examen des violations commises dans l'est du Congo, notamment par le biais de ces mécanismes spéciaux. Les mécanismes régionaux de responsabilisation devraient compléter les efforts internationaux.
Alors que la réaction de Human Rights Watch continue d'agiter les débats autour de la situation sécuritaire, une initiative majeure se prépare pour l'est de la RDC. Les ressortissants du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu annoncent la tenue du conclave du Grand Kivu prévu du 9 au 11 mars. Cette rencontre rassemblera des acteurs socio-politiques afin de définir des stratégies pour une paix durable dans cette région toujours marquée par l'insécurité. L'annonce a été faite au mercredi à Kinshasa lors d'un échange avec la presse. Compte rendu signé Blaise Ndongala Mayonda.
Placé sous le thème Unité, paix et développement durable pour les Grands Kivu, ce conclave se veut un cadre stratégique d'échange, de concertation et de formulation des recommandations concrètes afin de renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique du Maniema, du Nord et du Sud Kivu. Durant 3 jours, les participants travailleront sur plusieurs thématiques, notamment la paix, la sécurité, la gouvernance, le développement économique ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'un des initiateurs de cette démarche, l'abbé Jean Bosco Bahala, a indiqué qu'un accent particulier sera mis sur l'appropriation des accords de Washington qu'il considère comme un levier majeur dans la dynamique de stabilisation et de consolidation de la paix.
Les populations qui vivent dans cet espace espèrent que ces accords sont une solution pour les problèmes qu'ils vivent les problèmes de développement, de sécurité, du vivre ensemble.
Le président provisoire de ces conclaves, Léon Ouattangabo, estime que le moment est venu de mettre fin à la crise qui ronge la partie est du pays où des milliers d'habitants ont abandonné leur village à cause de la guerre. Il appelle ainsi les Congolais ayant pris les armes à se retirer et à demander pardon afin d'affaiblir l'agression rwandaise en cette période où la balance internationale penche en faveur de la RDC.
Alors que les initiatives pour consolider la paix dans l'est du pays se multiplient, une autre voix s'élève, cette fois depuis Beni, pour rappeler l'importance des droits des victimes. Il n'y aura jamais de justice sans réparation, a déclaré ce mercredi la chargée des programmes de l'organisation Hands for Help lors d'un atelier de plaidoyer en faveur des victimes de la guerre dans la région. En plus de promouvoir l'éducation à la cohabitation pacifique et la lutte contre la désinformation, l'ONG estime qu'un mécanisme de suivi rigoureux doit être mis en place pour garantir que les victimes retrouvent pleinement leurs droits. Nicole Lufungi, chargée de programme de Hands for Help, au micro de Marc Marofimbo.
Nous pensons que pour contrer ces fléaux, il faut beaucoup plus investir du côté de la prévention. C'est ainsi que nous nous focalisons beaucoup plus sur la sensibilisation, sur la culture de la paix, la cohésion sociale, ainsi de suite. Parce que vous voyez, le terrorisme et l'extrémisme sont des fléaux qui profitent des climats d'instabilité au sein des communautés. Mais également, comment éduquer nos communautés à chaque fois identifier les messages de haine, les incitations à l'extrémisme à travers même les réseaux sociaux, et également plaider en faveur de la réparation des victimes. Parce que vous savez, il n'y aura jamais de justice sans réparation. Et si vous avez eu à suivre, il y a des victimes qui sont venues témoigner. En tout cas, les récits sont tellement tragiques. Ils ont été abusés, ils ont connu vraiment des situations terrorisantes. Alors, s'il n'y a pas de réparation, on ne dira jamais qu'il y a eu justice en faveur des victimes de ces affres de la guerre qui sont commis ici chez nous par des groupes extrémistes.
Hands for Help est une ONG engagée dans l'accompagnement des communautés touchées par les conflits armés. Elle intervient notamment dans la promotion de l'éducation à la paix, la réinsertion socio-professionnelle et le dialogue intergénérationnel. Au Nord Kivu, la défense des droits des femmes reste indissociable du combat pour une paix durable. C'est le rappel d'Immaculé Biraeka, l'une des grandes pionnières de ce mouvement. Depuis plus de 30 ans, les femmes de la région se mobilisent sans relâche, un engagement né presque en même temps que le premier éclat de la guerre, récompensé ce mercredi à Goma par le CAFED, le collectif des associations féminines pour le développement. Cette figure emblématique de la société civile salue la résilience des femmes de l'Est et les exhorte à tenir bon malgré un contexte toujours éprouvant. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Mes sentiments sont des sentiments de très grande satisfaction. D'une part, parce que nous recevons des reconnaissances, mais aussi parce que les femmes sont restées actives. Il y a des avancées, mais aussi il y a des reculs. Parce que les femmes commencent à étudier, les femmes commencent à entreprendre, les femmes commencent même à se parler. Le fait que les femmes parlent et se prennent en charge, c'est déjà des avancées. Mais vu les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, vous connaissez, la guerre a plus de 30 ans. Nous avons commencé au début même de la guerre en 93, puisque la guerre a commencé le 21 mars 93. Nous aussi, on a commencé le 8 mars. Le temps que nous sommes en train de travailler sur les vœux de la femme, il y a des conditions qui nous ont fait reculer, que les femmes ne se découragent pas. Parce que j'ai rencontré des femmes par le monde qui militaient depuis 50 ans, mais les choses n'avaient pas changé complètement comme elles le désiraient. Mais il y avait toujours un bon changement positif. Je suis très satisfaite de trouver que les femmes sont debout et les jeunes. Il n'y a pas que des femmes âgées qui commencent à se raconter des vieilles histoires.
Au total, plus de 80 personnes ont été honorées par le collectif des associations féminines pour le développement, pour leur engagement en faveur des droits humains, de la consolidation de la paix et de la justice sociale. Dans le nord de Bunia, province de l'Ituri, à une dizaine de kilomètres seulement, le site des déplacés des Mbala a vibré ce mercredi au rythme d'une séance de sensibilisation pas comme les autres. Une centaine de personnes déjà fragilisées par le déplacement ont été outillées pour mieux comprendre et surtout combattre les violences sexuelles et basées sur le genre. Aux commandes, la police de la MONUSCO, l'UNPOL, épaulée par la section conduite et discipline de la mission. Objectif clair, donner à ces femmes et à ces hommes le réflexe pour identifier identifier ces violences, mais aussi la force de briser le silence et d'oser dénoncer les auteurs. Une opération menée en prélude au mois de la femme qui s'annonce une nouvelle fois comme un moment fort dédié à la promotion et à la défense du droit des femmes en Ituri et ailleurs. Les détails avec Martial Kizabiamongo.
Des femmes et des hommes, ainsi que des enfants mineurs, ont rempli la salle des réunions du site des personnes déplacées de Mbala à la périphérie nord de Bounia. Tous concentrés ont suivi des exposés sur les violences sexuelles et basées sur le genre et sur les mineurs, un phénomène présent dans les milieux des déplacements. Selon la responsable de la police de la Morisco à Bounia, cette activité se justifie après avoir enregistré plusieurs cas de violences sexuelles dans ces sites.
On attend d'eux qu'ils tiennent en compte vraiment de cette sensibilisation. Et violences sexuelles basées sur le genre, ça touche tout le monde.
Pour Emmanuel Dirojo, président du site de Mbala, cette sensibilisation a permis aux déplacés de connaître leurs droits, mais aussi elle leur permet désormais d'avoir le courage de dénoncer à temps les cas de violences sexuelles dont les personnes les plus affectées sont des enfants de moins de 18 ans dans ces sites. Nous allons continuer la sensibilisation dans les sites pour qu'en cas de violence sexuelle, qu'on alerte vite afin que les bourreaux soient déférés en justice. Notez que la même activité sera organisée la semaine prochaine dans les sites de Tsiré. Cette fois, c'est au sud-ouest de la ville de Bounia. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Dans les territoires de Mwenga au sud Kivu, où un éboulement survenu mercredi 4 mars sur le site minier de Kalingi à Kamituga a coûté la vie à deux creuseurs artisanaux. Un troisième a été retrouvé vivant dans un puits d'or du village Mazozo, chef-lieu du groupement des Baligi dans la chefferie des Omwamuzimu. Face à ce drame, la société civile du bassin de Zalia monte au créneau et pointe du doigt les conditions de travail déplorables qui règnent sur l'ensemble des sites miniers de la région. Son secrétaire exécutif Samuel Basoubi exhorte les services étatiques à aller au-delà de la simple perception des taxes et assurer un véritable encadrement des artisans miniers. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Le service SAEMAP doit vraiment jouer son rôle d'encadrement et d'accompagnement des activités de l'exploitation minière dans la zone. On voit que le service ne se contente que de recouvrer les taxes aux assujettis. Rien que ça. Mais d'autres activités, encadrement, conseil, éducation civique, ne font rien. On a encore travaillé dans des endroits interdits par la loi. Mais comme on paie seulement la taxe, on laisse déjà périr comme ça. Comme société civile, ça choque. Ça donne un pincement au cœur. Nous demandons à ce qu'on puisse changer cette mentalité et chercher une nouvelle approche pour sauver des vies. Car chaque jour, nous enregistrons des morts à Lougouchoua, à Bigombe, à Kamituga, ça et là dans les territoires de Mwenga et dans la ville de Kamituga. C'est pourquoi on doit changer l'approche et chercher d'autres mécanismes pour sauver les vies.
Nos multiples tentatives pour obtenir la réaction du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle sont restées sans suite. La province de la Tchopo se démarque. Les efforts de restauration environnementale portent déjà leurs fruits. L'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, l'a constaté de Vissu mercredi lors d'une visite éclair au point kilométrique 29 sur la route de Bouta, accompagné du coordonnateur national du programme d'appui au développement durable des savanes et forêts dégradées et de la ministre provinciale en charge de l'environnement, de l'agriculture et du développement rural. Le bijou Koy Taka, le diplomate français est venu évaluer la mise en œuvre du projet de savane et forêt dégradée et mesurer son impact sur les communautés locales. Les explications avec Jacques Moukongolé.
La France et la RDC partagent un intérêt commun, celui de lutter contre la déforestation, déclare l'ambassadeur français. Et pour y parvenir, il faut maintenir un couvert forestier très important, ajoute-t-il. Étant donné que l'agriculture est la cause principale de la déforestation au pays, Rémi Maréchaux affirme qu'il faut offrir aux agriculteurs une alternative au déboisement pour augmenter la production.
Concrètement, en visitant une parcelle nouvellement plantée, comment l'agriculteur qui avait bénéficié de ce programme, de cet accompagnement, a vu son revenu augmenté, comment il a pu construire une maison en dur, envoyer ses enfants à l'école, etc. C'est très important que les projets qu'on mène ici soient des projets qui bénéficient directement aux populations congolaises, parce que c'est la garantie de leur succès.
L'Agence française de développement finance ce projet dans la Tchopo. Quatre cultures sont concernées, à savoir le cacao, le palmier à huile, l'arbre à chenille ainsi que l'acacia. Tout marche bien, déclare le coordonnateur national de PSD, Willy Makiadi.
On a donné une assignation de 4000 hectares pour la province de la Tchopo. Pour l'instant, on est à 3200 hectares déjà réalisés et on a 600 hectares qui sont dans les pépinières qui seront transplantés dans moins d'un mois.
Rappelons que ce programme est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et exécuté par l'Agence française de développement. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, l'heure était hier à la clôture d'un atelier clé pour la protection de la biodiversité. Magistrats et personnels judiciaires y ont été sensibilisés à l'application de la loi sur la conservation de la nature et la lutte contre la criminalité faunique, organisée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en partenariat avec l'organisation Congo Conserve. Cette session avait pour objectif de renforcer les compétences des participants dans le suivi des infractions liées au crime faunique, mais aussi de clarifier les procédures de collaboration entre les tribunaux et l'ICCN dans toute la chaîne d'application de la loi. Reportage signé Florence Kizalunga.
À l'issue de ces deux jours de travaux, le directeur chef des sites du parc national de la Lomami, Radar Nishuli, s'est réjoui du renforcement des capacités des autorités judiciaires sur les instruments juridiques et encadrant la lutte contre la criminalité faunique.
Nous avons compris que la loi sur la conservation de la nature était une loi qui n'était pas beaucoup connue par nos organes de loi. C'est comme ça que nous avons pensé que multiplier cette loi, leur disponibiliser ça, ça permet quand ils auront des cas de flagrant ou des violations de la loi sur la conservation de la nature, ils peuvent bien se comporter et savoir quelles dispositions prendre vis-à-vis des infractions constatées.
Satisfaits, les participants ont pris l'engagement de contribuer à la conservation de la nature par la répression du braconnage.
La formation elle a été utile pour nous parce que ça nous a permis d'avoir un aperçu panoramique sur les différentes législations en matière de la conservation de la nature, mais aussi les infractions qui sont retenues par cette loi-là et les sanctions qui sont prévues. En fait, c'est un élément déjà de plus parce que même dans la défense, lorsqu'il y a des criminalités fauniques, je peux déjà intervenir parce qu'on a suffisamment outillé sur cette matière-là.
Le participant recommande que ce type d'activité soit organisé régulièrement afin d'assurer un meilleur suivi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La Russie a annoncé ce jeudi un nouvel échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, 200 soldats russes ont été échangés contre 200 soldats ukrainiens lors d'une première opération. Le négociateur russe Vladimir Medinsky précise qu'un total de 500 prisonniers russes doit être échangé d'ici vendredi 6 mars, soit 500 contre 500 au total. La deuxième phase impliquant 300 prisonniers de chaque camp est prévue ce vendredi sur X. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le retour des premiers soldats ukrainiens, soulignant que personne n'est oublié et que l'Ukraine met tout en œuvre pour rapatrier ses compatriotes, notamment grâce à des médiateurs. Ces échanges de prisonniers et de corps restent l'un des rares résultats concrets des discussions entre Kiev et Moscou depuis le début du conflit.
L'invité.
Le Kassai central fait face à une recrudescence inquiétante des accidents de la route. Entre le 1er janvier et le 4 mars 2026, la Commission nationale de prévention routière, CNPR, a déjà enregistré 63 accidents dont les bilans s'élèvent à 39 morts. Une situation alarmante qui interpelle autant les autorités que les usagers. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hendrik Ndalandimwe, directeur provincial de la CNPR. Il répond aux questions d'André Katende Ngalamoulou.
Monsieur Hendrik Ndalandimwe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Parlez-nous des cas d'accidents depuis le début de l'année 2026 en province.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, les 4 de ce mois de mars, nous comptons 63 accidents, 39 personnes mortes. Il y a eu 32 personnes grièvement blessées et il y a eu aussi des dégâts matériels graves. Ces 4 motos qu'on ne peut pas récupérer et aussi 59 cas légers des engins qu'on peut récupérer. Hier, nous avons reçu 7 cas. Vous allez comprendre qu'il y a un problème terrible sur notre réseau routier provincial. Permettez-moi de lancer un appel.
Avant de passer à l'appel, qu'est-ce que vous avez identifié comme problème majeur de tous ces cas d'accident?
Les causes des accidents de circulation routière, il y en a plusieurs. La première des causes, c'est l'absence de connaissances des nouveaux codes de la route au volant. Nos conducteurs allument seulement les véhicules, engagent les vitesses et réduisent les vitesses. Pour eux, ils sont devenus des chauffeurs. Non, venez à la Sainte-Père pour qu'on puisse vous recycler et remonter votre niveau de conduite. Surtout les motards, j'insiste sur eux parce que ce sont eux qui amènent beaucoup de dégâts sur la chaussée. Nous ajoutons les cas des drogues au volant. Donc ce n'est pas seulement l'ivresse de l'alcool, mais il y a aussi l'ivresse des chanvres. Il y en a plusieurs que je peux citer ici. Nos routes sont niouettes. Nos routes ne parlent pas. La population manque comment s'orienter.
Lorsque vous parlez d'une route muette, à quoi est-ce que vous faites allusion?
Je suis en train de faire allusion des signaux. C'est-à-dire, il y a les panneaux de signalisation, il y a marquage au sol, il y a les feux lumineux. Donc, si un conducteur ne maîtrise pas ça, et si la route est construite sans ces signaux-là, en tout cas, attendez-vous à des cas pareils, des morts, des blessés, des dégâts, ainsi de suite.
Qu'est-ce qui doit être fait pour que les cas des accidents soient vraiment réduits?
Nous avons toujours demandé aux conducteurs, venez à la Sainte-Père pour qu'on puisse vous recycler, avoir un niveau qu'il faut. Le NIC service qui n'a qu'à aider les conducteurs, c'est la CNPR. Le recyclage, c'est un pouvoir que l'État congolais a donné à la Sainte-Père afin de recycler tout conducteur tous les 3 ans. Et après cela, il y a ce que nous disons la politique de conduite. Et plus loin, nous avons ce qu'on appelle les nouveaux codes de la route écoliers. Nous allons parler le même langage avec le gouvernement de façon qu'on puisse commencer avec cette matière ici dans des établissements scolaires à partir de l'école primaire. Pour que les enfants sachent que voilà, demain ou le lendemain, quand il sera conducteur, il saura que voilà ce qu'on nous avait appris. Il a cette bonne matière-là dans sa tête pour ne pas marcher de gauche à droite et respecter les normes de la route en bonne et due forme.
Vous venez de dire que vous avez le pouvoir de recycler les conducteurs tous les 3 ans. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce travail?
Dans chaque domaine, il y a toujours la politique. Et cette politique-là est accompagnée avec des autorités. Nous sommes en train de parler avec eux. Parce que qui que ce soit, il ne peut pas aller au-delà de la loi. Nous, on est là, nous parlons un bon langage avec le gouvernement. Nous ne pouvons pas le faire sans qu'il y ait la bénédiction du gouvernement provincial. Quand bien même c'est parmi nos missions régaliennes, nos attributions régaliennes. Mais nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, on se réveille le matin, on va sur la voie publique, on commande. Non, il y a des normes qu'il faut respecter. Parmi ces normes-là, il faut qu'il y ait aussi l'autorisation de l'autorité de tutelle ou soit exécutif. Nous sommes dans les pourparlers.
Vous aviez un message à adresser à la population au moment que je vous ai interrompu. Est-ce que vous pouvez revenir à ces messages?
Je disais ceci, que les conducteurs doivent savoir qu'ils sont des sauveurs, qu'ils viennent à la Sainte-Père. Nous avons la matière. Les usagers de la route, tendance confondue, veuillez respecter les normes de la route. Ainsi que les constructeurs de routes, nous vous demandons de venir pour qu'on ajoute ce que nous pouvons ajouter comme des ingrédients dans tout ce que vous faites.
Monsieur André Kandala Dimou, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste.
Hendrik Ndalandimoué, patron provincial de la Commission nationale de prévention routière au Kasaï Central, notre invité du jour. Il revenait sur la hausse inquiétante des accidents de la route dans la province, avec 63 cas enregistrés depuis le début de l'année et déjà 39 morts. Il est au micro d'André Katende Ngalamouloumé. C'est tout le journal présenté par Gisèle Cage. Merci de votre fidélité. Et pour aller encore plus loin, toutes nos infos détaillées, nos analyses et nos programmes sont disponibles sur nos plateformes numériques ainsi que sur notre site web Radio Capi, la radio de la paix, la référence de l'information vérifiée. À très vite.